Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui décide de la mode ? Y a-t-il des maîtres, comme dans le monde de la peinture ? Autrement dit, y aurait-il, y avait-il, puisque l'émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er février 1949, y aurait-il ou y avait-il donc des réunions secrètes entre couturiers parisiens préparant la mode ? Non. Hasard, communication entre les femmes et les couturiers, les femmes, puisqu'à l'époque il n'était question que de mode féminine. La Tribune de Paris était là pour percer le mystère ou tenter de le percer, alors que déjà tout se précipitait dans la vie.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
On présente en ce moment les grandes collections de printemps. Qu'il y ait chaque année et même chaque saison une tendance de la mode, une tendance à la fois assez générale et assez précise pour qu'on puisse dessiner la silhouette type de la femme nouvelle, voilà l'un des mystères persistants de la vie parisienne.
Car enfin les créateurs de la haute couture répètent, et il faut les croire, qu'ils travaillent en secret derrière le rideau de drap ou de soie de leurs maisons respectives. Et l'on assiste néanmoins, compte tenu de différences d'interprétation ou d'expression, à des collections qui, dans leur ensemble, offrent de saisissantes analogies dans les lignes et dans les coloris.
D'où vient que les couturiers aient participé tous et au même moment à la révolution de la robe longue ? D'où vient que cette robe soit aujourd'hui et partout raccourcie ? Comment expliquer que des efforts si particuliers et visant si constamment à l'originalité aboutissent à des résultats aussi semblables ? En un mot, comment se crée, comment s'établit la mode ? C'est la question que nous posons ce soir.
Autour du micro sont réunis
Jean Gaumont-Lanvin, président de la Chambre syndicale de la couture parisienne.
Maggie Rouff.
Et Lucien Vogel, directeur du Jardin des modes.
Paul Péronnet a mené le débat.
Si vous le voulez bien, pour commencer cet entretien, je prendrai le point de vue le plus simple et je crois le plus général, celui du monsieur dont je suis, qui s'étonne quelquefois de voir sa femme adopter d'enthousiasme telle ou telle position de la taille, telle ou telle longueur de jupe, et qui répond à toutes les questions. C'est ainsi, ça se fait, c'est la mode. Alors, naïvement, le monsieur s'étonne et se dit, pourquoi est-ce que c'est la mode ? Qu'est-ce que c'est que la mode ? Qui l'institue ? Comment se fait-elle ? Et voilà le problème que je pose, pour commencer, au président de la Chambre syndicale de la couture, Jean Gaumont-Lanvin.
Eh bien, d'abord, avant de vous répondre, je crois qu'il faudrait situer le cadre, expliquer que deux fois par an, sur une période qui s'étale sur environ 15 jours, un certain nombre de grands couturiers connus du monde entier montrent leurs collections. Ces collections, ils les ont préparées sans s'être vus, sans s'être concertés, au contraire, en s'étant fuis pour ne pas sentir une influence si minime soit-elle. Et brusquement, sur cette période de quelques jours, une mode nouvelle surgit, une mode qui s'apparente généralement, qui a quelque chose de commun chez tous les couturiers, et qui est la mode, justement, ce qui se fait, ce qui se porte. Alors là-dessus, j'aurais quelques petites idées personnelles, mais je crois qu'il serait bon que vous passiez la parole.
Ah ben, si vous le voulez, je voudrais d'abord, est-ce qu'il y a une contradiction sur ce plan ?
Non, tout à fait.
Monsieur Vogel est d'accord.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a simplement coïncidence et qu'il s'agit simplement d'expliquer le mystère de cette coïncidence.
La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que ce mystère qui existe pour beaucoup de monde, dans le monde, pas seulement à Paris, est de même nature que le mystère de ce qu'on a appelé l'école de Paris, en peinture, qui fait que, en dehors des écoles, en dehors de leur culture personnelle, des peintres de tous les pays, en plus de Français, ont créé une école de Paris qui a rayonné et qui continue à rayonner sur le monde depuis un siècle. Et le résultat est aussi, le mécanisme est aussi mystérieux.
Et j'ajouterais tout de même que le phénomène de la couture est plus mystérieux encore, dans le sens que les peintres dont vous parlez ont travaillé dans des styles voisins, d'accord, mais cela sur une période s'étalant sur des dizaines d'années. Tandis qu'il est admis une bonne fois pour toutes qu'à chaque saison, La mode change, la mode se modifie.
Par conséquent, le rythme est extrêmement...
Par conséquent, il y a un mystère par an, ou même deux mystères par an, un au printemps et un à l'automne.
Moi, Madame Maguireau. Je m'insurge tout à fait contre le mot de coïncidence. Il ne peut pas y avoir pendant des années, deux fois par an, des coïncidences. Coïncidence, c'est un mot qui indique effectivement le hasard. Or, dans la mode, il n'y a pas de hasard. Et je répéterai toujours que pour moi, l'établissement de la mode vient d'un accord complet et d'une communication entre la grande masse des femmes et le couturier. Le bon couturier, celui qui réussit à établir réellement la mode, et celui qui a senti le mieux ce que désiraient les femmes, même quand elles ne l'ont pas parfaitement compris elles-mêmes. Il arrive alors, par une espèce de sentiment profond, à rendre ce qu'elles ont désiré elles-mêmes, à le réaliser et à le leur donner. À ce moment-là, elles reconnaissent leur propre désir, elles l'adoptent, elles le portent et la mode est née. Voilà, à mon avis, le seul phénomène, c'est une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que c'est le phénomène qui se produit et non pas une simple coïncidence.
Elle est extrêmement intéressante, votre interprétation, Madame Maguirouf, mais si vous voulez bien m'excuser, je pense que vous ne rendez pas compte néanmoins du mystère, c'est-à-dire de cette coïncidence dont vous ne voulez pas. Admettons que chaque couturier ait des antennes psychologiques particulières qui lui fassent sentir à un certain moment quel est le désir général de la masse. Il faudrait admettre alors que tous, à un certain moment, ont la même interprétation et par conséquent comprennent de la même manière.
C'est exactement ce qui se passe, c'est que la grande masse des femmes, à un moment donné, désire porter certaines choses et les couturiers sont couturiers justement parce que ils sentent cela. Et à un moment donné, les femmes désirent porter des choses plus faciles à porter, d'autres moments, elles ont un besoin d'excentricité, etc. Et c'est ce sentiment-là que traduisent les couturiers. Ils ne seraient pas couturiers s'ils ne sentaient pas ça, à mon avis, en tous les cas.
Je crois que Lucien Vogel a envie de protester.
Non, pas du tout. Je veux simplement ajouter un petit correctif, car dans l'ensemble, je suis d'accord avec Mme Maguirouf. Mais elle donne un rôle, je dirais presque à la masse des femmes, alors que s'il y a un rôle, si les femmes jouent un rôle indiscutable, puisque pour moi, les couturiers proposent et les femmes disposent, ça n'est pas la masse des femmes qui a même inconsciemment des besoins nouveaux, car toutes les femmes, c'est là la question primordiale, appellent continuellement un changement en mode. Mais c'est une élite de femmes françaises et quelques étrangères vivant à Paris qui constituent la clientèle, on peut dire, parisienne, l'élite parisienne, qui en effet dispose de la mode.
Nous sommes d'accord, Monsieur Vogel. Moi, quand je dis les femmes, j'entends ces femmes-là.
Mais c'est un groupe assez réduit, tout de même,
oui, bien
par rapport à la clientèle.
Bien entendu.
Alors, qui aurait ce groupe assez réduit aurait l'impression, malgré tout, de participer constamment et chaque saison à cet effort de création. Alors que je vous assure que la grande masse, tout de même, des femmes ont l'impression de subir. Je ne dis pas qu'elles en souffrent, au contraire, elles ont l'air enchantées de subir. Mais elles subissent. Jean Gaumont-Lanvin.
Je crois qu'il y a tout de même autre chose à côté de ça. Il y a un rythme de vie auquel la mode ne saurait échapper. Il y a le renouvellement actuel. Quand on étudie l'histoire de la mode, on s'aperçoit qu'il y a 40, 50 ans, la mode mettait plusieurs saisons avant de changer et qu'à mesure que notre vie se précipite, la mode se précipite avec elle. Il y a donc une espèce tout de même de logique dans l'enfantement de la mode. Mais si, il y a une logique.
Pour la logique de la mode,
je suis d'accord avec Madame Maguirouf. Je proteste aussi, je crois qu'il n'y a aucune logique dans la mode.
Alors, j'aimerais bien entendre M. Jean Gaumont-Lanvin expliquer pourquoi il pense à une logique, lui.
Il y a une logique, parce qu'il y a un certain climat d'existence, parce que dans les collections précédentes, certaines indications ont réussi, et que même si elles n'ont été qu'ébauchées dans des fins de saison, on sait quelles seront les indications précises du lendemain. J'en suis persuadé, car vous voyez, dans les fins de saison, l'ébauche des saisons suivantes.
Ça, c'est d'accord, c'est ce que j'appelle, moi, les ballons d'essai, mais ça, ce n'est pas la logique de la mode. La logique de la mode serait, par exemple, que dans des temps difficiles, vous ayez des robes simples, des robes faciles à porter, que dans des temps de grande prospérité, vous ayez des robes riches. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons éternellement le contraire.
Plus... C'est de la logique.
Parfait. C'est tout à fait. L'observation genre... est à mon avis définitive.
C'est un genre de logique si paradoxale que ça puisse paraître. Je crois que dans la mode, il y a une certaine compensation. C'est-à-dire que dans les époques heureuses, les femmes n'ont pas besoin de la compensation des robes pour s'égayer, et que peut-être que dans les époques difficiles et pénibles, eh bien, les robes leur sont une espèce de distraction, une évasion. Mettons.
C'est ce que vous ne m'avez pas laissé dire, et que j'appellerais la logique de la mode, c'est-à-dire ce besoin de compensation, ce besoin d'évasion sans quoi la mode n'existerait pas.
Maintenant,
c'est Lucien Vogel qui prend la parole.
Ne croyez-vous pas que le problème a un peu changé à partir du moment où les acheteurs étrangers ont joué un grand rôle dans le chiffre d'affaires des couturiers parisiens. Et c'est à partir de ce moment que la mode a été, qu'ils ont été amenés à changer la mode le plus souvent possible afin que chacune de leurs collections soit autant que possible différente de la précédente.
Oui, vous invoquez là...
C'est-à-dire que l'évolution dont vous parliez dans le temps, en dehors des questions de rapidité de communication actuelle, évidemment, qui joue, l'évolution lente et peut-être logique à cette époque-là, comme dans l'architecture, comme dans le mobilier, par modification successive d'un style, a été bousculée par le besoin impératif pour des raisons économiques de nouveau.
J'allais vous dire, alors là, nous passons dans le domaine commercial, qui est tout à fait différent.
Oui, mais je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure dans ma comparaison entre l'école de Paris de peinture et la mode parisienne. Nous avons fait une objection à ce que ce soit les femmes qui, finalement, décident la mode. Je suis heureux de voir que nous avons été d'accord sur le fait que c'est un certain nombre de femmes, une élite. Or, d'accord. C'est la même chose pour la peinture. Je reviens à l'école de Paris, ça n'est jamais la masse même des amateurs ou le public en général qui a adopté la peinture nouvelle, ça n'a jamais été qu'une élite très réduite et qui l'a finalement imposée.
Oui, mais là, vous mettez le doigt justement sur une nouvelle contradiction, en ce sens que le goût de l'élite éclairée en peinture est généralement en contradiction totale avec le goût de la masse du pays, alors que l'on ne constate jamais que le goût de cette élite féminine à laquelle vous vous référez se trouve justement en contradiction avec le reste. Au contraire, le reste suit automatiquement. C'est assez curieux.
D'abord, non, le reste ne suit pas toujours automatiquement.
Chaque dans la mesure où, naturellement, où ses moyens financiers le lui permettent.
À chaque saison, essaye une nouvelle ligne, de nouvelles formes. Il y en a, et je suis alors d'accord à nouveau, n'est-ce pas, avec Mme Maguerouf, il y en a qui réussissent parce qu'il y a conjonction d'abord, quelquefois, pas toujours, entre les tendances de certains couturiers. Et peut-être, en effet, avec, tout en voulant du nouveau par principe, un certain appel des femmes pour telle ou telle nouveauté. Mais le problème est exactement le même que pour la peinture. C'est simplement une question de rythme.
Pas tout à fait, M. Bogel. Non, pas tout à fait. Parce qu'en peinture, c'est très différent. En peinture, vous avez des maîtres, vous avez des écoles. En couture, vous n'avez ni maître, ni école, ni cette espèce de groupe qui fait qu'il naît un certain art et que cet art puisse s'imposer. Vous avez toujours des cavaliers seuls en couture. Que ces cavaliers seuls se rencontrent, cela ne peut venir que d'un élément extérieur, qui est cet élément extérieur d'influence qu'ils ressentent et qu'ils ressentent simultanément, je crois, de la même manière.
Les grands maîtres en peinture ont toujours été des cavaliers seuls.
Simplement, c'est une question de rythme. Oui, mais ils ont tout de même appartenu au départ.
Vous avez chez les couturiers des maîtres également, leur vie de maître dure moins longtemps que la vie d'un peintre, mais ils existent. Vous avez le cas continuel, et heureusement pour vous, de couturiers qui sont des leaders, j'emploie le mot anglais, n'est-ce pas?
Leader et maître,
pendant
sont deux choses
un certain nombre, non seulement de saisons, mais d'années.
J'ai l'impression, M. Vogel, que Mme Maguerouf ne veut pas admettre cette idée de direction que vous incluez vous-même dans votre terme de leader que vous employez, Mme Maguerouf.
Non, ça, je ne la vois pas du tout comme ça. Je crois qu'en couture, c'est une chose absolument qui n'existe pas. Un leader, c'est le couturier, si vous voulez, qui a à ce moment-là le plus de succès, mais il n'est pas du tout le maître. Et au contraire, les autres couturiers n'auront jamais, et c'est à la fois leur honneur, de ne pas le faire ce qu'il fait, de ne pas le copier du tout. Il ne sera pas leur maître. Ils essayeront chacun de conserver leur personnalité et de faire autre chose que lui. On ne peut donc pas comparer cela à un maître dans un autre art, un maître en peinture, que des élèves essayeront, non pas de copier, mais dont ils essayeront de s'inspirer. Or, jamais un couturier n'essayera de s'inspirer d'un autre couturier. Ou alors, à ce moment-là, il cesse d'être un couturier.
Mais je crois qu'il est tout de même obligé souvent de s'inspirer d'un autre couturier, car vous avez des cas tout de même dans chaque génération de couturiers qui ont créé la mode ou une nouvelle mode pour un certain temps. Par exemple, prenons, à une époque déjà un peu éloignée de ma jeunesse, Paul Poiret, qui a entraîné tous les couturiers de son époque, plus ou moins.
Je ne crois pas, parce que tout de même, en même temps que Poiret, vous aviez des genres très différents, comme était à ce moment-là Paquin ou Wörth, et qui faisaient des robes qui n'avaient absolument comme inspiration et comme tenue aucun rapport avec les robes de Poiret, qui étaient quelque chose d'extrêmement personnel et d'extrêmement spécial.
Oui, mais tout de même, il y a eu pendant une ou deux saisons un entraînement collectif Poiret. Il n'y a qu'à regarder les journaux de mode de l'époque, chère madame.
Par exemple,
c'est Jean Gaumont-Lanvin qui vient de parler, Lucien Vogel.
Par exemple, pour moi, le manteau de femme du soir de notre temps date de Poiret.
Alors là, je crois que c'est aussi une idée, n'est-ce pas ? Peut-être que Poiret, c'est un peu différent, ça. On peut lancer une manière de s'habiller, peut-être, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manteau du soir et que Poiret a créé des manteaux du soir. On ne doit jamais être personnel dans ces choses-là, mais à un moment donné, il n'y avait pas, par exemple, de robe de soir à manches. J'ai été la première à en faire, tout simplement parce que j'avais froid et que j'aimais mieux avoir des robes du soir à manches. Bon, eh bien maintenant, on continue à faire toujours des robes du soir à manches. Ça ne veut pas dire que les autres couturiers ne les font pas à leur façon et avec leur personnalité.
Oui, mais lorsque c'est un homme comme Poiret, il dégage une telle aura, une telle ambiance, que malgré lui, il influence la mode, j'en suis persuadé. Ceci pour nous rester, nous réfugier dans les temps révolus.
Oui, et alors
peut-être... Et dans les morts, c'est plus facile.
Lucien Vogel, vous répondez peut-être... à Jean Gaumont-Lanvin.
Oui, ceci nous ramène à la question générale. Qu'est-ce qui fait que la mode est lancée par Paris, alors que nous pouvons constater, nous avons vu, des couturiers d'autres pays capables de faire des modèles jolis, même souvent plus que jolis, mais incapables de créer la mode. Pour moi, il y a là un point tout à fait spécial, une faculté de Paris.
C'est exact, ça sort du trottoir de Paris.
Je dirais presque que si certains couturiers étrangers peuvent faire des modèles. Seuls les couturiers parisiens, la couture parisienne, est capable de lancer la mode parce que seule elle est capable de la tuer. Je veux dire par là de tuer à chaque saison ses propres créations d'une saison précédente.
Ah bien voilà, en effet, la puissance justement de cette espèce de groupe de couturiers dont Mme Maguirouf faisait tout à l'heure uniquement le reflet de l'opinion, mais qui tout de même, vous le soulignez, M. Vogel, a la puissance de dire à un certain moment, j'arrête et je fais autre chose.
Mais ceci répond à la définition, ceci répond
à la définition même de leur raison d'être.
À la définition parfaite de la mode qui, contrairement à tout art qui est fait pour durer, la mode est faite pour mourir et une robe n'a de valeur qu'autant qu'elle meurt et qu'elle sait mourir.
Maguirouf, Jean Gaumont-Lanvin et Lucien Vogel ont dit comment naît et meurt la mode.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er février 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.